Bonsoir à tous, donc merci d'être venus assister à cette rencontre donc, autour de la sortie du livre réalisé avec le Fastin et l'Agence d'urbanisme. Tout d'abord, donc, je vais rapidement remercier évidemment la librairie Mola de nous accueillir dans ses salons. Voilà, puisque pour être l'ancien rédacteur en chef du Fastin et être aussi rédacteur, journaliste, impliqué dans l'édition, je sais combien c'est important de faire vivre un ouvrage après sa sortie et donc de justement d'être partie prenante de ces rencontres et des rencontres avec le public. Alors j'ai un petit canevas que je vais essayer de suivre. Moi-même je suis donc Benoît Hermé, rédacteur et journaliste freelance, indépendant. Donc expérience dans l'édition, et donc je suis avec Robert Lucante qui est à ma droite, qui lui est géographe et urbaniste de l'agence d'urbanisme, une des figures historiques de l'agence d'urbanisme de Bordeaux. Voilà, donc nous sommes les co-auteurs avec évidemment le Fastin de l'ouvrage qui a été réalisé pour l'agence d'urbanisme, donc co-auteur du texte, mais aussi de la conception éditoriale, c'est-à-dire, voilà, je ne sais pas si vous avez déjà eu le livre entre les mains, il y en a qui sont disponibles ici, qui est un ouvrage à la fois avec beaucoup de contenu, mais aussi beaucoup d'illustrations dans sa forme. Rapidement, donc, je vais présenter un petit peu le contexte dans lequel s'est fait cet ouvrage. Ensuite, donc, on a prévu une sorte de... un temps de questions et de réponses avec Robert. Et puis, évidemment, ce qui serait très intéressant pour nous, ce serait d'avoir une interaction avec le public. Donc, voilà, que vous puissiez poser des questions plus précises sur certains aspects. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet ouvrage donc, a été réalisé d'abord à la suite d'une exposition. Une exposition que certains d'entre vous ont probablement vue, qui a été présenté donc dans les locaux du hangar G2, qui est au bassin à flot, donc où se trouvent les locaux du Fastin, mais aussi ceux de l'agence d'urbanisme, et qui avait été organisé à l'occasion des 40 ans de l'agence, l'anniversaire de la création de l'agence. Exposition qui était constituée comme une sorte de frise, en fait un panorama de l'évolution justement de Bordeaux, ce que nous avons repris dans le titre, hein, de la ville à la métropole, et qui montrait, sous forme de grandes séquences, voilà, les mutations du tissu urbain de toute l'agglomération, hein, pas seulement Bordeaux. L'exposition a très bien marché, ça a été un succès public. Robert était donc le pilier, là aussi, sur place de l'exposition, puisqu'il faisait les visites. Et donc, on a pu constater, évidemment, un intérêt du public pour l'urbanisme, tout simplement, hein, l'urbanisme de Bordeaux, mais pas seulement, puisque l'exposition, comme le livre, en fait, reprend des grands axes de l'urbanisme, de l'histoire de l'urbanisme. Faire le livre de l'exposition, c'était donc pas seulement faire un catalogue, mais aussi créer au niveau éditorial un vrai prolongement, un prolongement qui soit un peu dynamique. Donc on a eu l'espace de pouvoir, écrire plus de textes, tout simplement. L'exposition est assez visuelle, donc plus de contenu, et aussi en même temps garder l'esprit voilà, qui était cher à l'agence de vulgarisation, qui est cher aussi au Fastin, donc de vulgariser des contenus scientifiques, parfois un petit peu techniques, en tout cas ceux qui ont fait l'histoire et ceux qui sont ceux des métiers aussi de l'agence aujourd'hui, pour raconter cette histoire voilà, un peu, de façon un petit peu à la fois didactique, mais aussi... avec tout un certain nombre de petites histoires qui se greffent comme ça sur la grande histoire. Comme on disait Robert tout à l'heure, quand on discutait en venant, l'idée c'était un petit peu de raconter justement une histoire et de faire vivre effectivement ce passage des années 60 à l'urbanisme de Bordeaux tel qu'on le connaît aujourd'hui, son visage, avec toute la satisfaction qu'aujourd'hui cela renvoie auprès des Bordelais. Alors, on s'est dit qu'il était quand même pas inutile, en préambule, de faire un petit rappel sur ce que sont les agences d'urbanisme. C'est vrai que l'un des intérêts de l'exposition, l'un des intérêts du livre, c'est que l'agence elle-même ait fait cette démarche donc de se présenter d'une certaine manière au grand public et de montrer voilà, comment elles se sont constituées, ce que reprend notamment le premier chapitre de l'ouvrage, voilà, dans un esprit de pluridisciplinarité, pardon, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire sur un socle commun qui est celui de la ville et la planification de la ville, on voit tous les métiers qui ont existé depuis les années 60. Donc Robert, je crois que ce serait intéressant de rappeler en quelques mots, alors j'ai aussi la charge délicate de le minuter, donc voilà, nous rappeler en quelques mots donc un peu la jeunesse de ces agences qui est évoquée dans le livre.
Alors préalablement, là, je souhaite excusé l'absence de Jean-Marc Hoffner, qui était prévu comme intervenant. Mais Jean-Marc a eu un empêchement, je dirais pour la bonne cause, puisqu'il travaille ou il réfléchit sur les déplacements, les problématiques de déplacement actuellement. Vous êtes pas, vous avez remarqué qu'à Bordeaux, effectivement, il y avait quelques besoins de réflexion encore sur les déplacements. Donc c'est pour la bonne cause et donc il est absent. Et je vous prie de l'en excuser. Donc pour revenir sur les agences d'urbanisme, effectivement, elles ont été créées, on y reviendra, par la loi d'orientation foncière donc de 1967, décembre 67. Bordeaux a connu une préfiguration des agences d'urbanisme dès janvier 66. Alors pourquoi les agences d'urbanisme ? Parce qu'on sortait de la période de reconstruction de la guerre et on construisait de façon massive pour répondre à des vrais besoins en termes de logement, des besoins quantitatifs, les destructions de la guerre d'une part, mais aussi l'exode rural qui battait son plein. Il fallait aussi loger des travailleurs immigrés et, à partir de 62, les rapatriés d'Afrique du Nord, d'Algérie. Donc tous ces besoins, sans oublier que on avait affaire à Bordeaux, il y avait un tiers de logements, on dirait aujourd'hui, indignes, pour ne pas dire de taudis. Donc des gens logés dans des conditions extrêmement précaires. Donc des besoins quantitatifs, qualitatifs considérables. Il y avait eu une réponse apportée par les ZUP. Les ZUP, zones à urbaniser en priorité, avaient pour mission de construire massivement des logements, mais de façon très mécanique, et avec l'urbanisme, ce qu'on appelait l'urbanisme chemin de grue, c'est-à-dire on mettait des rails, sur les rails on mettait des grues, et on construisait de part et d'autre de ces rails. Donc ça donne effectivement les fameux plans masse de toutes les ZUP, qui se ressemblent à peu près toutes, à la différence de la densité ou de la hauteur ou de l'écartement des immeubles. Donc il y a eu une réflexion qui a surgi au niveau national pour dire, bon, on manque de matière grise pour penser un peu l'urbanisme autrement. Et donc c'est comme ça qu'a émergé, ou qu'ont émergé les agences d'urbanisme, qui ont trouvé donc leur création, leur juridique dans la loi d'orientation foncière, mais certaines agglomérations, dont Rennes, dont Nantes et dont Bordeaux, ont anticipé ces créations. Celle de Bordeaux date de janvier 66, alors que la création officielle de l'agence d'urbanisme de Bordeaux, c'est le 1er janvier 70. Donc il y a eu une période de 4 ans où, de préfiguration, où l'agence d'urbanisme a fonctionné en s'appelant d'ailleurs agence d'urbanisme, et surtout donc ce qui était tout à fait nouveau, puisqu'auparavant on pensait l'urbanisme, chacun pensait l'urbanisme dans son coin, on va dire l'ingénieur pensait l'urbanisme, l'urbaniste bien sûr, l'architecte, l'économiste, le sociologue, chacun dans son coin parler et penser d'urbanisme. On a demandé à tous ces gens-là de se réunir au sein d'une même entité pour réfléchir ensemble à l'urbanisme, donc une réflexion pluridisciplinaire qui a fait la valeur ajoutée des agences d'urbanisme à l'époque, mais qui est toujours valable aujourd'hui. Les agences d'urbanisme, leur plus, on va dire, vient de cette réflexion pluridisciplinaire et qui s'est enrichie depuis, avec toutes les problématiques environnementales, par exemple. Donc on retrouve sociologues, économistes, etc.
Tu me disais qu'il y avait aussi jusqu'à des économistes, en fait, même dans le...
Il y a des économistes, pas même, il y a des économistes.
Ouais, ça fait partie de la réflexion.
Nous en avons au fond, mais nous en avons un brillant représentant, l'ancien directeur de l'agence de Rennes, qui a été la première agence à mettre l'économie au centre de ses préoccupations. Il y a quelques années, Dominique, déjà. Voilà, donc je veux dire, c'est pas nouveau. Ce qui est plutôt nouveau, c'est tout ce qui concerne développement durable, environnement, etc. Là, c'est beaucoup plus récent. Mais c'est des sujets sur lesquels les agences sont aujourd'hui, et voilà notre environnementaliste qui arrive justement, fort à propos. donc voilà, donc les agences sont pluridisciplinaires et de plus en plus, et c'est leur force. Et les agences sont, juridiquement, ce sont, bizarrement, on va dire, des associations, loi 1901. La loi ne le souhaitait pas. La loi avait plutôt prévu des organismes publics ou parapublics, en tout cas. Ça n'a jamais été le cas. Dès le début, elles ont été toutes des associations et elles restent des associations. Et une certaine précarité fait leur force quelque part, hein, parce que c'est une grande souplesse dans le fonctionnement. Et finalement, ça satisfait tout le monde, hein, les collectivités locales comme l'État à l'époque. Hein. Ça permettait quand même quelques souplesses que l'organisme public ou parapublic n'aurait pas permis, notamment au niveau des financements. Donc voilà un peu de... on y reviendra sûrement, mais voilà un peu l'origine des agences d'urbanisme. Quand on parlera des acteurs, peut-être tout à l'heure, on reviendra sur la préfiguration de l'agence d'urbanisme de Bordeaux, parce que c'est une anecdote pas inintéressante à raconter.
En tout cas, si on doit le résumer pour aujourd'hui, donc la mission, c'est bien de planifier la ville, hein, ce qui est évoqué dans la première partie qui est un petit peu historique de l'ouvrage, sur laquelle je vais revenir, mais qui est aussi un rappel un peu des missions actuelles, finalement, qui ont traversé le temps. Planifier la ville, pardon, et tu disais, voilà, apporter une expertise aux élus et aussi avoir une réflexion collective sur cela, quoi. C'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est... Planifier, c'est aussi observer. Hein. Les missions d'observation, dès le début, les agences ont toujours une mission d'observation des phénomènes urbains et spatiaux, ce qu'on appelle, hein. Donc sur le marché du logement, sur le marché foncier, sur les déplacements, sur toute une série de données, sur la construction. Voilà. Donc c'est des missions, on va dire, pérennes des agences depuis le début.
Alors, voilà, ça c'était le petit préambule, je pensais, utile par rapport à cette vision un petit peu générale qu'on peut avoir du sujet, un petit peu accessible aussi, c'était l'état d'esprit de notre travail tout au long de la réalisation du livre. Pour revenir sur le livre, alors donc je vais essayer de le résumer un petit peu dans son organisation, dans sa composition, et on rentrera un petit peu plus dans le détail au fur et à mesure des différentes parties. Alors, le premier intérêt, je pense qu'on peut y trouver, en tout cas moi que j'ai trouvé déjà en tant que lecteur, hein, simplement étant aussi rédacteur, lecteur à la base, un petit peu à la source du document, c'est qu'on y trouve finalement, donc à partir de l'histoire sur Bordeaux, enfin l'histoire sur Bordeaux nous raconte déjà, d'ores et déjà, la grande histoire entre guillemets, enfin voilà, en tout cas celle qui justement embrassait ces décennies avec une histoire de l'urbanisme en France, avec des lois dont on fait le rappel de façon très, comment dire, brève, entre guillemets, dans l'ouvrage, mais surtout, c'est qu'on a des grands mouvements qui se dessinent et qui font voilà, l'histoire contemporaine telle qu'on la connaît un petit peu, pas toujours très bien. Et donc, je pensais que c'était intéressant aussi que tu nous redises en quelques mots quel phénomène un petit peu on peut retenir déjà d'emblée donc dans la compréhension générale du sujet, c'est-à-dire qu'on est sur une histoire qui s'ancre à peu près dans les années 50, la fin des années 50 et jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans cette période-là, en fait, ce qu'on a voulu placer voilà, en préambule du livre pour expliquer un petit peu le décor actuel, quoi. Voilà, tout simplement, donc des... donc, tu as parlé un petit peu du logement, puisque c'est une des problématiques centrales de l'après-guerre et de la reconstruction, pardon. Mais il y en a d'autres aussi qui touchent également à l'économie, en tout cas à l'organisation du territoire français, même à l'époque, et dont Bordeaux, finalement, va être le reflet. C'est ça.
Alors, c'est ça. Bordeaux a quelques spécificités, on y reviendra, mais s'est développé à peu près de la même manière que la plupart des grandes agglomérations. Alors, à quoi ça tient ? Les années 60, c'est un tournant. D'abord parce qu'on a passé la période d'après-guerre. On va dire que la France s'est débarrassée, je mets des guillemets, de la guerre d'Algérie, qui a quand même bloqué beaucoup de choses. Hein. Et donc, en 62-63, on va travailler sur l'aménagement du territoire français. Et... là, dès 62, la DATAR, délégation, dès 63, je dis 62, mais c'est 63, la délégation à l'aménagement du territoire qui va être créée au début 63 et qui va immédiatement lancer deux actions, une sorte de décentralisation économique. À Bordeaux, ça va toucher essentiellement l'aéronautique. Alors, l'aéronautique est déjà implantée à Bordeaux. Hein. Dassault existe, il y a l'usine historique qui est à Talence, hein. Il y a l'AIA. Bon, il y a déjà des activités aéronautiques importantes, puisqu'on est loin de l'Allemagne, tout simplement. Et on va renforcer ce pôle aéronautique, comme à Toulouse, de la même manière, mais plutôt avec l'aéronautique militaire. Et deuxième action qui aura son importance et qui aura des conséquences immédiates sur le développement et l'urbanisme bordelais, c'est les métropoles d'équilibre. La DATAR va, pour rééquilibrer l'espace français qui se développe autour essentiellement du bassin parisien, de Paris, du bassin parisien, et un petit peu sur le bassin rhodanien et la Méditerranée, on va créer 8 métropoles d'équilibre, dont Bordeaux en fera évidemment partie, parce que c'est quand même une grande ville, et ça va changer fondamentalement son destin. Et ça va avoir, on va y revenir, mais ça va avoir, par exemple, un impact immédiat sur Mériadec. Mériadec est une opération qui a un projet très avancé à l'époque. Hein. En 1962, le premier projet de Mériadec sort. Jean Royer, architecte en chef, est devenu...
On y reviendra après.
mais 1962, Mériadec, c'est du logement. En 1963, Bordeaux, métropole d'équilibre, Chabat en dit, Bordeaux change de statut, il lui faut un centre directionnel, il lui faut un centre d'affaires. Donc on ne fera pas que des logements en Mériadec, il fera du logement certes, mais on fera aussi des bureaux, on en fera un centre de commandement. Voilà. Donc le changement de Mériadec et donc le nouveau projet de Mériadec qui lui sera mis en œuvre à partir de 1970. Donc voilà un peu un exemple à cette époque-là. Pour revenir quand même, et je pense que c'est là qu'il faut en parler, des deux principaux acteurs de cette époque-là, qui sont un national, c'est Edgar Pisani, un qui est national mais aussi local, c'est Chaban. Ces deux personnages vont jouer un grand rôle dans l'urbanisme et donc sur Bordeaux. Bon, Chaban, c'est déjà un personnage considérable, hein, il est maire de Bordeaux depuis 1947, il a été député depuis 1946, il est président depuis la fin des années 50, il est président de l'Assemblée nationale, donc c'est le troisième personnage de l'État, c'est quelqu'un qui compte au national et donc qui peut faire remonter les affaires locales au national assez facilement. Edgar Pisani, toujours vivant, doit avoir 93 ans ou quelque chose comme ça, est plus connu pour son action autour de la politique agricole commune, mais il a aussi œuvré dans l'urbanisme et très fortement. Il a porté la loi d'orientation foncière en partie du moins. Et ces deux personnages sont amis. Ils se connaissent depuis la Résistance et notamment depuis la libération de Paris. Hein, Chabat aura été le plus jeune général de France. Et Edgar Pisani sera le plus jeune sous-préfet de France. Donc deux personnages importants qui se connaissent bien. Edgar Pisani sera le premier ministre de l'équipement. Un nouveau ministère qui sera créé avec la fusion de deux ministères, ministère de la construction, ministère des grands travaux. Ce ministère de l'équipement, donc c'est fusion de deux ministères pour faire un grand ministère de l'équipement sous l'impulsion des ingénieurs du Pont des Chaussées. Hein. Voilà. Donc le premier ministre de l'équipement sera Edgar Pisani en 1966, et il portera la loi d'orientation foncière. La loi d'orientation foncière, c'est la loi mère de l'urbanisme moderne. On y retrouve les ZAC, les POS, schéma directeur, les grands principes, et les agences d'urbanisme. Aussi, l'article 23 de la LOLF crée les agences d'urbanisme, officiellement, on va dire. Et c'est justement dans ce cadre-là que Edgar Pisani va venir à Bordeaux fin 1966 pour rencontrer Chaban. Et dans ce cadre-là, il demande à Chaban... Alors, il vient dans un cadre très particulier qui s'appelle les Journées mondiales de l'urbanisme. Rien moins. Sauf que l'urbanisme, à l'époque, ça parle à personne. Et il n'y a aucun écho, on n'a retrouvé aucun écho dans la presse, ni locale, ni encore moins nationale, de ces journées-là. Mais peu importe, le prétexte était de venir, entre guillemets, tester la loi d'orientation foncière sur le territoire. Aujourd'hui, on aurait fait un sondage. Mais bon, à l'époque, il fallait aller sur place. Et donc, il va demander à son ami Chaban de mettre en place une agence d'urbanisme. Donc, il demande ça en novembre 1966. Elle sera mise en place, donc, dès janvier 1967, hein, exactement. Donc, 3 ans avant sa création officielle. Et voilà, c'est ce qui va se passer à Bordeaux. Donc, voilà les deux personnages. Alors, Pour aller au bout, la loi d'orientation foncière ne s'appelle pas, comme elle aurait dû s'appeler, loi Pisani, parce que Edgar Pisani va démissionner. Il va démissionner avant la promulgation de la loi qui sera promulguée en décembre 67. Il va démissionner en avril. Et il va démissionner parce qu'il va être désapprouvé par Georges Pompidou, puisqu'il est ministre de Pompidou, sur, et c'est intéressant, sur le financement de l'urbanisme. Il va être très fortement opposé à un jeune ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing en l'occurrence, et Pompidou arbitrera en faveur de Giscard d'Estaing contre Pisani, et donc Pisani démissionnera. Voilà. Donc c'est pour ça que la loi d'orientation foncière ne s'appelle pas loi Pisani, sinon elle se serait appelée comme telle.
C'est bon ?
Je t'en repasse la main.
Bon, c'est effectivement important de rappeler un petit peu les... des grandes figures historiques, hein, une histoire qui est quand même relativement récente finalement. D'autant que voilà, on a alors bon, au début quand on faisait le livre, on se disait bon, c'est un peu les années Chaban quand même qu'on est en train de mettre en. Mais bon, voilà, force est de reconnaître que le donc si vous avez pris le temps ou si vous avez le temps bien sûr de regarder un petit peu l'ouvrage, donc on voit qu'il est, on a repris le découpage un petit peu de l'exposition. Alors qui peut peut-être surprendre comme ça de prime abord, mais l'idée c'était d'avoir justement quand, une fois qu'on a planté ce décor, pardon, ce décor historique, d'avoir ces grandes lignes de l'urbanisme en France, ces mutations aussi importantes au niveau économique, social qu'évoquait Robert, le logement, etc. C'était d'avoir l'illustration, donc encore une fois, au niveau local, et de montrer à travers des grands ensembles qui ne sont pas tout à fait des quartiers, des grands ensembles urbains de Bordeaux et de sa proche agglomération, comment les choses ont évolué, comment ces grands ensembles ont structuré l'agglomération telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors c'est vrai que quand on regarde un peu dans le rétroviseur, on se dit, bon, ils ont démarré, ils ont été sous l'impulsion de Jacques Chaban-Delmas. Néanmoins, ils ont évidemment continué leur vie, et voilà, c'est des quartiers qu'on pratique toujours aujourd'hui. Donc en gros, il y a des opérations d'urbanisme importantes, comme Mériadec, donc qui fait l'objet d'un chapitre. Vous avez le lac aussi, le quartier du lac. Et tout ce qui concerne l'autre rive, si j'ose dire, enfin la rive droite de Bordeaux. Et à cela, on s'est rajouté un chapitre qu'on a consacré à tout ce qui est lié au franchissement, aux ponts et aux infrastructures, puisque au-delà des quartiers, donc la rocade, mais aussi les routes, voilà, tout ce qui relève un peu justement du domaine des ponts et chaussées ou des ingénieurs, est aussi, et de l'urbanisme évidemment, est aussi très structurant pour la vie d'une agglomération. Donc le livre, alors on se disait que ce serait bien de revenir un petit peu plus en détail sur ces grands chapitres. Donc tu as parlé de Jacques Chaban-Delmas, tu as parlé du contexte aussi de logement, donc je crois que ce serait intéressant de revenir un peu, voilà, comme c'est dans l'ouvrage, hein, sur Mériadec, sur le lac et la rive droite. En quelques mots, évidemment, on ne va pas vous redonner tous les détails. L'idée qu'il y avait, c'était de créer ces grands ensembles, enfin de s'appuyer sur ces grands ensembles structurants, encore une fois, et de leur donner à chacun son propre cycle de vie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on les envisage depuis leur création, mais jusqu'à aujourd'hui, on remonte le temps. Donc Mériadec, par exemple, effectivement, qui était une grande opération de logement au départ sur ce quartier qu'on disait malfamé, insalubre, etc., et qui a été construit sur cet urbanisme de dalle qui aujourd'hui encore, avec son architecture en plus très rétro-futuriste, comme on dit parfois, fait toujours débat, en tout cas ne fait pas le consensus, en tout cas est intéressant aussi, pardon, parce qu'il... illustre cette histoire-là, mais il illustre aussi à sa manière, encore une fois, la grande histoire, cette fois-ci, de l'architecture et de l'urbanisme, puisque c'est le quartier de la Défense, hein, je crois, qui l'a inspiré à Paris, et voilà, pour avoir, sous l'impulsion de Jacques Chaban-Delmas, dans le contexte que décrivait Robert, effectivement, cette urbaniste. Alors peut-être ce serait intéressant d'en dire quelques mots, sur Mériadec en particulier.
Alors, avant peut-être revenir, mais en deux mots, là, parce qu'on parlait de l'évolution de l'agglomération sur les infrastructures. Parce que c'est vrai que ça a structuré l'agglomération telle qu'on la connaît, entre les rocades et les pénétrantes. Hein. On a fait les grandes zones monofonctionnelles, qui aujourd'hui posent un problème par rapport à l'évolution. On a fait des grandes zones d'activité, où il n'y a que de l'activité, des grandes zones de logement, où il n'y a que du logement, et souvent d'ailleurs sous forme de lotissement, et qu'on ne sait pas vraiment faire évoluer, et des grandes zones vertes, etc. Donc c'est le fameux zoning, hein, zone fonctionnelle, où aujourd'hui, effectivement, on plaide la mixité fonctionnelle, et sur ces zones-là, c'est très compliqué à installer. Enfin, c'est guère réversible, on va dire. Donc ça, faut pas l'oublier. Et beaucoup d'agglomérations, la plupart des agglomérations, se sont construites autour des rocades, autour des grandes infrastructures. Donc ça a tout le même modèle de développement des années 60, puisque c'est à ce moment-là que ça s'est développé, sachant aussi, on a oublié de dire, c'est que c'est l'époque du tout-voiture. Tout est concédé à la voiture. L'agence d'urbanisme, il y a le plan dans le livre, a imaginé 19 files de voitures sur les quais. À une époque, personne n'a rien dit, parce que c'était l'air du temps. Tout le monde a été favorable. Et puis, il faut dire que les quais n'est pas très, très amène. C'était des activités, il y avait les grilles, c'était noir. On n'avait pas envie d'y aller du tout. Hein. Donc, il y avait des raisons aussi assez objectives pour que finalement, on puisse réaliser ces 19 files de voitures à cet endroit-là. Donc, voilà un peu l'élément de contexte. Pour revenir donc sur... Mériadec, effectivement, l'urbanisme de Dalles, c'est ce qu'on appelait la ville fonctionnelle. Hein. C'est-à-dire, on va séparer les fonctions, les voitures, c'est au niveau de la rue, et tout le reste, c'est-à-dire les piétons, les services, voire les écoles. Hein. Ça n'a pas été le cas à Mériadec, mais ça a été le cas au lac, aux Oubiers, hein, où il y a eu le même urbanisme de Dalles. Il y a eu 3 opérations d'urbanisme de Dalles à Bordeaux, sur l'agglomération du moins. Il y a eu Mériadec, il y a eu au lac, les Oubiers, et la carrière du Loser, exactement, de 2 opérations concomitantes, et la ZUP de Talence. C'est les 3 opérations d'urbanisme de Dalles sur l'agglomération, bon, qui ont mal fonctionné, puisque bon, ça n'a pas fonctionné, à l'exception de la défense, effectivement, mais pour d'autres raisons. En règle générale, cet urbanisme de Dalles n'a pas fonctionné. Problème d'accessibilité, parce que c'est vrai que dans la première conception de Mériadec, il n'est même pas prévu d'escalier pour accéder à la dalle. On vient en voiture. Dans les plans d'aménagement, il y avait 2 grandes pénétrantes qui arrivaient sur Mériadec, des autoroutes, hein, des voies rapides urbaines, on appelait ça, qui arrive sur Mériadec en l'emplacement aujourd'hui de la patinoire, il y avait la pénétrante ouest et la pénétrante sud-ouest qui arrivaient, et qui repartaient d'ailleurs dans une rocade interne pour rejoindre le pont Saint-Jean, en passant sur l'ancienne manufacture des tabacs. Donc vous voyez, c'était une autoroute urbaine, on ne peut pas appeler ça autrement. Hein. Mais je vous dis que c'était dans l'air du temps, parce que Pompidou, président de la République, dans un discours, va dire, on le cite là, va dire il faut adapter la ville à l'automobile. Hein, on en est loin aujourd'hui. Donc vous voyez le contexte de l'époque, donc il ne faut pas s'étonner des propositions que pouvait faire l'agence d'urbanisme qui était dans l'air du temps, hein, tout simplement. Hein. Donc Mériadec est né à cette époque-là, donc parking au sous-sol. Les gens sortaient de leur voiture, prenaient les escaliers et montaient sur la dalle. On n'avait pas imaginé que des gens puissent venir à pied à Mériadec, y compris les pompiers qui habitaient juste de l'autre côté du cours du maréchal Juin. Voilà. Mais on en était à ça. Donc on a évidemment après réalisé les fameux escaliers aztèques, là, qui est face à la caserne des pompiers, et puis les escaliers qui accédaient à l'ancienne DAS derrière la préfecture. Mais ils ont été réalisés après.
Et on n'aurait pas imaginé non plus que ce quartier-là devienne ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un quartier plutôt du tertiaire ou des administrations, enfin, puisqu'au départ, sa vocation, c'était vraiment de répondre à un problème de logement qui était très, très important à l'époque, quoi, c'est ça,
en fait. Oui, en 62. Alors, il y a la maquette, hein, de l'opération dans le livre. On va dire, heureusement, qu'on l'a paralysée telle que c'est à peu près 2 fois plus dense que le Grand Parc. Et il y a un seul immeuble de la première opération 62 qui a été réalisée, c'est l'immeuble du Château d'Eau. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, il existe. Hein. Il est entre la Caisse d'épargne et la Poste, au-dessus du centre commercial. Il est un peu masqué par le centre commercial, mais il se voit bien. C'est un des plus petits, hein, de l'opération. C'est un des plus petits. Donc, quand vous voyez la maquette, vous vous dites à quoi on a échappé quand même. Des fois, c'est bien qu'on ait changé d'avis. Parfois.
Peut-être ça aurait été intéressant donc, pour balayer un tout petit peu, enfin brièvement, rapidement, mais balayer néanmoins un petit peu les différents chapitres, de dire un mot sur le lac aussi, qui est un autre quartier, une extension de ville, un territoire dans la ville et en même temps hors de la ville. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au départ aussi, donc à peu près la même époque, il y a deux thèmes qui ressortent. Il y a la question des inondations, qui est un des traits communs de l'agglomération bordelaise, mais il y a aussi... la question du logement, puisque le lac également est conçu au départ pour des habitations. Et finalement, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant en faisant le livre, en regardant le lac avec le regard que j'en ai moi aujourd'hui, qui est un grand territoire dont on ne sait pas toujours trop quoi dire ou penser, et où il y a beaucoup de tertiaires, là encore, des immeubles. Et finalement, au départ, dans le projet de Arsène Henry, c'était la nature au seuil de la ville, quoi. C'était composé avec la nature, ce qui aujourd'hui est quelque chose qui revient un petit peu dans l'air du temps, très largement, et finalement, ce n'est pas du tout devenu cela, néanmoins, quoi.
Oui, alors le lac, c'est vrai que tu as raison de dire, c'est... au départ, c'est un bassin d'étalement. Simplement, c'est suite aux inondations en réalité de 52, mais dû au débordement de la Garonne. Parce que c'est vrai que c'est récurrent les inondations à Bordeaux. Il y a deux types d'inondations, débordement de la Garonne, je dirais inondations classiques, et les inondations dues aux pluies d'orage qui ont été assez calamiteuses fin des années 70, début des années 80, et qui ont amené la CUB à intervenir très fortement pour éviter ces débordements. Vous avez quelques photos de Sud-Ouest, des inondations.
Il y a une de Sud-Ouest qui est assez parlante.
De 82, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la regardent à chaque fois. De mai, juin 82, qui ont été assez terribles. Hein,
la rue de Marseille, c'est ça, je crois qu'on voit.
Marseille,
la rue de Marseille, oui.
Bien. de fort.
Qui est sous l'eau.
Qui était vraiment sous l'eau, sous plus d'un mètre d'eau. Et c'était très récurrent. Donc la CUB a dû, peut-être qu'on va en parler ou dans les questionnements. Donc le lac, c'est un bassin d'étalement suite aux inondations, débordement de la Garonne de 52. L'eau va arriver jusqu'à la place Ravezy quand même. Hein. Donc, alors évidemment, il n'y a pas le Grand Parc, ce sont encore des cressonnières, mais tout de même. Donc c'est très violent comme inondation, hein, depuis l'amont de Tournins jusque dans le Médoc. Et donc, on a l'idée de faire un bassin d'étalement, de faire un grand trou pour que l'eau puisse aller jusqu'au bord. Il y a déjà de l'eau, de toute façon, mais c'est pour remplir la différence, on va dire. Ça sert à ça. Donc, c'est quelque chose, ça fait 160 hectares, c'est immense. On ne ferait plus ça aujourd'hui, c'est clair. On aurait d'autres solutions, mais sûrement pas celle-là. Mais à l'époque, les terrains ne valent rien. Donc, c'est pas cher de les acheter. Et on pense les aménager derrière pour, finalement, faire une opération, entre guillemets, rentable. Donc, on va remblayer autour du lac. C'est pratiquement 20 millions de mètres cubes. C'est considérable. Hein. 160 hectares, parce que le lac est profond. Il peut atteindre 15 mètres par endroit. Hein. Donc, on va enlever une quantité colossale de matériaux. Et on va remblayer. On va remblayer avec de la tourbe et de la grave. Et on va faire des couches de tourbe, de grave, sans bien repérer ce qu'on fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les joyeux constructeurs qui vont sur le lac ont des surprises extraordinaires. Ils disent, ça y est, on est dans la grave impeccable, et hop, on est à nouveau dans la tourbe, on est à nouveau dans la grave, etc. Ils ont mis le feuil, et le sous-sol est très peu connu. Et vous allez vous rendre compte, avec la construction du grand stade, ça, on commence à le dire, qu'il y a des grandes surprises quand ils font les sondages. Et pour cause, c'est pas un sol naturel. Donc évidemment, c'est assez hétérogène, on va dire. On a du mal à le dessiner. Mais ce n'est pas une grande surprise pour nous tous, on le savait. Hein, c'est pas... Et comme on a construit déjà pas mal de choses au lac, à chaque fois, on a les mêmes problématiques. C'est-à-dire des pieux, on enfonce des pieux jusqu'à moins de 30 mètres. Et on arrive à moins de 30 mètres, tout d'un coup, ils sont absorbés. Ils disparaissent. On les perd. On vous dire la qualité du sous-sol. Hein. C'est pour ça que voilà, faire un stade là, c'est quand même un peu risqué, on va dire. J'en dis pas plus.
tu pourrais nous parler un petit peu là du projet initial de Xavier Arsène Henry, qui est quand même une...
Alors, le projet... Alors,
parce que c'est quand même une des figures de l'architecture de l'histoire de Bordeaux.
Absolument.
Et voilà, on ne le sait pas toujours.
Xavier Arsène Henry, donc, gagne le concours en 66 de l'aménagement du lac. Il va gagner le concours. Il a un projet, effectivement, où essentiellement c'est du logement. Les fameuses clairières. Mais il y a aussi des équipements. Alors, il y a la foire exposition, parce que ça, c'est dans le cahier des charges. La foire exposition est au Quinconce, et elle est à l'étroit. ça coûte très cher d'amonter et la démonter, donc on va mettre la foire exposition au lac dès 69. En 69, on va inaugurer la foire exposition au lac. Ensuite, il prévoit un grand stade de 100 000 places à l'époque, mais qui n'ira pas plus loin que le projet. Il ne sera jamais repris, sauf aujourd'hui. Hein, c'est quelque chose qui ne reverra plus. Il prévoit les antennes sportives, qui étaient aussi dans le cahier des charges, et donc du logement essentiellement. Et une fois qu'il a gagné le concours, il va rencontrer Chaban, il va lui dire « Voilà, j'ai fait ce projet-là pour gagner le concours, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire sur le lac. » Vous imaginez, aujourd'hui, on ne pourrait pas trop faire ce type de démarche. À l'époque, on peut le faire. Et Chaban dit « D'accord. » Et donc, il a un autre projet qui ne verra pas plus le jour. Hein, parce que le contexte fait qu'on ne pourra pas aller très loin sur ce projet. Son nouveau projet n'ira pas plus loin. On va faire les deux premières opérations de logement, dont la carrière des Aubiers et la carrière du Lauzin, et ça s'arrêtera là pour 30 ans. Pendant 30 ans, on fera beaucoup de choses au lac, sauf du logement. Et donc, il faudra attendre les années 2000, le début des années 2000, et sur l'autre rive du lac, sur la partie Bruges, pour revoir du logement. Et il faut attendre aujourd'hui, Ginko, l'opération Bouygues, pour avoir du logement sur la partie bordelaise du lac, c'est-à-dire 40 ans. Hein, tellement, on va dire, l'opération des Aubiers a été quelque chose de raté, on va dire. Alors, au-delà, hein, au-delà de l'urbanisme de Dalles, au-delà de beaucoup de choses, on peut reprocher déjà que les logements tournaient le dos au lac. On sait que le lac, c'est quand même une sacrée valeur ajoutée. Vous avez un lac urbain, habiter au bord d'un lac urbain, c'est une sacrée plus-value. Et ces deux premières opérations, paradoxalement, tournent le dos au lac. On peut dire que les aménageurs, là, ils n'ont pas eu la bonne... Enfin, ils n'ont pas bien ressenti. On sent que là, il y a eu une erreur un peu fatale. Et très vite, les Aubiers sont devenus une zone de relégation, de population en grande difficulté, etc. Donc, un repoussoir, mais pour beaucoup de raisons aussi. On n'a pas, on va dire, mais ce n'est pas qu'à Bordeaux, on n'a pas été au bout de la logique, c'est-à-dire on n'a pas mis les équipements nécessaires, très important. Pas d'école, pas de commerce, ni de rien. On n'a pas relié le lac à la ville. Alors que dès 63, ou dès 62 même, l'État disait surtout le lac, faut le relier très fortement au centre-ville. Ça n'a pas été suivi d'effet, donc les gens se retrouvent au milieu de rien, sans relation avec la ville, et d'où, effectivement, avec un environnement, effectivement, il n'y avait aucun arbre, on en avait planté, je crois, 14 000, mais il faisait 50 cm d'eau, donc il n'y avait aucune végétation. C'est quand même une zone compliquée, on va dire.
Et pourtant, dans le projet d'Arsène Henry, c'était bien quand même, le rapport à la nature était quelque chose d'important, quoi.
Oui,
qui était
tout pas... à fait. Et il avait effectivement, c'était un leitmotiv, c'était la nature en ville, hein, le projet du lac au départ. Sauf que, effectivement, il a fallu un peu attendre. Mais pour faire un arbre trentenaire, ben, il faut 30 ans. Hein. Bien sûr. Oui, pour le lac, oui, parce qu'on pourra.
Ce que je crois qui est intéressant de retenir, enfin en tout cas moi c'est ce qui a retenu mon attention largement, c'est que finalement, comme je disais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on peut regarder, on peut être un peu surpris au premier abord en se disant bon voilà c'est pas forcément l'image qu'on attend de Bordeaux, et je crois que c'est précisément la vertu enfin du livre et de la démarche d'ailleurs de l'agence et qui rejoint celle du Festin et qui a un esprit aussi de vulgarisation mais qui va un peu glaner comme on dit hors des sentiers battus et essayer de montrer des choses un petit peu différentes. Et donc voilà, c'est vrai que moi, parfois on me pose la question, on me dit, ah, tu viens de faire un bouquin sur Bordeaux, oui, mais alors vous parlez du Grand Théâtre, même si le Festin parle aussi du Grand Théâtre, mais je veux dire, bon voilà, on dit, non, on parle des UP, ah bon, on parlait des UP, ah mince. Et non, voilà, je sais, plus sérieusement, l'idée c'est que j'ai trouvé assez courageux finalement et intéressant, encore une fois, de mettre en valeur eh bien, des ensembles qui ne le sont pas, pour les raisons, qu'a très bien évoqué Robert, mais qui font partie... de l'identité de la ville, de l'histoire de la ville, de l'histoire de l'urbanisme, et qui montre qu'il y a ces cycles-là quand même, et que parfois des choses qui ont été pensées mais pas abouties reviennent un petit peu avec l'évolution des mœurs, tout simplement, l'évolution du cadre de vie et de la façon dont on voit bien le cheminement, effectivement, comme tu le disais, entre les années 60 et les 30 Glorieuses, voilà, tels qu'on les a tous vus au cinéma ou dans l'imaginaire, comme on dit, collectif. Et aujourd'hui, voilà, quand on parle de tramway, ou de, voilà, enfin, on ne sait plus qu'on en parle, on sait qu'on pratique le tramway, les déplacements doux, comme on dit. Donc on voit quand même qu'il se passe quand même beaucoup de choses sur un segment de temps relativement peu important, finalement, et les choses peuvent considérablement évoluer. Et effectivement, bon, on a un peu évoqué Mériadec, on a un peu évoqué le lac, mais je crois qu'aussi, par exemple, dans tout le chapitre qui est consacré à la rive droite, on voit bien justement l'évolution considérable là encore qu'il y a eu entre, alors avant même l'époque des ZUP, ce qu'était la rive droite, c'est-à-dire, bon, on n'y allait pas, hein, déjà pas beaucoup, et pourtant néanmoins, plus avant encore, il y avait des demeures secondaires, dès le 19e siècle, les gens allaient se réfugier un peu hors de Bordeaux, et après effectivement, il y a eu le temps des ZUP, et aujourd'hui, on voit depuis les années 60, tout ce qui a pu être fait, puisqu'aujourd'hui, on présente souvent la rive droite comme le poumon un peu de l'agglomération, hein, une agglomération bordelaise qui recense pratiquement 50% d'espace naturel, ce qui est très important. Et on voit aussi comment les choses s'inversent un petit peu, se renversent, et comment finalement les a priori, voilà, ou les préjugés, finalement, même s'ils ont la vie dure, évoluent. Et bon, voilà, le tramway l'a permis, c'est ce qu'on montre dans l'ouvrage également. Et si on reprend Mériadec ou le lac, tu évoquais Ginko, mais Mériadec est aussi le projet de future cité municipale, avec un immeuble d'ailleurs, je crois, qui est prévu d'être peut-être détruit. En tout cas, ce qu'on voulait montrer, c'est que voilà, ce sont des quartiers qui ne sont pas forcément ceux auxquels on songe en première ligne, de prime abord, mais qui finalement structurent effectivement l'histoire de l'agglomération et aujourd'hui se retrouvent positionnés, que ce soit Ginko, Mériadec ou encore une fois la rive droite, dans des enjeux très importants pour l'avenir de l'agglomération. Peut-être tu pourras en dire un mot, toi, avec ton regard d'urbaniste sur ces quartiers-là et les choses qu'il faut aller un petit peu creuser, montrer. C'est un peu le rôle aussi des urbanistes. Tu parles d'observation tout à l'heure, justement, que c'était
avec
pas seulement...
Avec le recul, on va dire, finalement, le phénomène qui majeur pour moi, c'est l'émergence de la rive droite, finalement. C'est ce qui marque vraiment l'évolution de l'agglomération. Et l'État, d'ailleurs... faisait remarquer déjà en 62 et recommandait de rééquilibrer les deux rives, déjà à l'époque. Parce qu'on a, souvent dit, bon, Bordeaux, l'histoire des ponts, on va avancer sur les ponts, parce que, justement le lien avec la rive droite. Bordeaux, le pont, longtemps on n'a pas eu de pont, après il y a eu le pont de Pierre en 1821, et si on accepte la passerelle et le chemin de fer, il a fallu attendre 140 ans pour avoir un second pont, le pont Saint-Jean. Hein. Donc, mais pourquoi n'y avait-il qu'un pont? C'est parce qu'il n'y avait peut-être pas de besoin non plus. Parce que la rive droite existait très peu. L'Ormont, en 1960, c'est 5000 habitants. C'est ce nom qui est la plus grosse commune, qui doit faire à peu près un peu plus de 10 000 habitants. Florac, quelques milliers d'habitants. Donc, effectivement, il n'y a pas grand monde. Il y a la Bastide, certes, mais il n'y a pas grand monde sur la rive droite. Et un pont suffit. Et brutalement, les ZUP, brutalement, beaucoup de population. Et brutalement, il va falloir franchir le fleuve. Et là, effectivement, le temps de retard avec les franchissements, alors le pont d'Aquitaine, le pont Saint-Jean, etc. L'État, en 62, préconise 5 franchissements, déjà, à l'époque, hein. Et le cinquième, finalement, on l'aura à la fin de l'année, normalement. Voilà. Donc, vous voyez, le temps qu'on en a mis. Tout ça pour dire aussi le temps long de l'urbanisme. On parlait du lac. Le lac, c'est 70 ans pour faire le lac. 50 ans, au moins, pour finir Mériadec, qui est en train de se terminer. 30 ans pour faire la rocade. Vous voyez, donc le temps long de l'urbanisme. Ce qui fait que les projets, même s'ils vont au bout, bah, ils n'y vont pas avec les contenus du départ. À l'évidence, ils vont évoluer au fil des besoins, au fil des ans. Donc, et la rive droite est un, alors pas quartier, est un secteur vraiment où on a eu un, où on est en train de vivre actuellement un changement d'image assez important. Et pourtant, on était dans le dur là, les ZUP, l'image extrêmement négative, et avec l'arrivée du tram, avec le projet de rive droite de la Bastide, avec l'arrivée d'investisseurs privés, etc., on a un retournement avec le parc des Coteaux, la nature, hein, sur la rive droite. On est en train de changer complètement l'image de la rive droite. Et ça se lit très bien à travers des indicateurs comme les valeurs immobilières, les valeurs locatives. Ça va être de plus en plus cher pour habiter sur la rive droite. Et donc ça se lit, ça. Ça c'est un bon indicateur.
Je crois qu'il serait intéressant de faire un tout petit zoom sur un sujet dont on ne peut pas parler dans un livre sur l'urbanisme à Bordeaux et particulièrement aujourd'hui, qui est l'espace des quais, qui justement dans le genre espace urbain très important, qui a connu un retournement d'image très très important. Je crois qu'on le voit bien aussi dans le livre, hein, à la fois dans les textes mais aussi dans les images. Et on voit bien comment cet ancien espace économique, hein, portuaire, fermé, comme tu disais, avec ces grandes grilles, hein, dont on parle un petit peu à un moment donné, pour expliquer l'origine, a connu une évolution très très importante. Et donc avec le projet de Michel Courajoux qu'on connaît tous, hein, bon, voilà, c'était aussi pour dire qu'on n'a pas... On n'a pas traité que les années Chaban, on a traité toutes les années Juppé aussi. Le tramway en fait partie. Et c'était pour montrer, voilà, qu'il y a encore une fois des retournements comme ça assez importants. Et finalement, au-delà de l'image qu'on a des quartiers, c'est aussi les pratiques après qu'on a voulu mettre un petit peu en valeur, en avant. Voilà, mettre des pratiques tout simplement des Bordelais qui, à un moment donné, on le dit, hein, dans l'ouvrage, il y a une espèce de coupure symbolique entre les habitants et leur fleuve, hein, qui est matérialisée par ces grilles, qui dissocie l'espace de vie un peu de l'espace de, voilà, des portuaires de travail. Et finalement, aujourd'hui, c'est devenu, voilà, cela fait pour le coup là, plutôt l'unanimité et le consensus, et on retrouve un peu justement la mixité là où il n'y en avait plus du tout. Et peut-être tu veux dire un mot sur ça, sur les quais, c'est intéressant aussi.
Alors, je regarde l'heure qui avance, ouais. Surtout. Après, les quais, je dirais que c'est l'histoire la plus connue, puisqu'elle est tout de même contemporaine. Alors c'est vrai ce que tu as dit, hein, c'est un espace économique qui a muté. C'est construit sur l'eau, hein, les quais sont essentiellement construits sur l'eau. Il est évident que s'il n'y avait pas eu un enjeu très fort, un enjeu économique, jamais on n'aurait réalisé les quais tels qu'ils sont pour en faire juste un lieu de promenade. Hein. C'est clair, donc on a bénéficié finalement des investissements du port, c'était un espace économique, pour après le transformer en lieu ludique. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir.
Juste peut-être dire un mot sur les pratiques justement des habitants, tout simplement, c'est ce que l'urbanisme montre aussi, c'est pas juste voilà, un regard, on va dire, de chiffres, mais c'est aussi tout cela qui est pris en compte dans l'analyse qu'on fait ou dans l'interprétation qu'on fait de la ville. C'est tout ce que les gens, bon, on reviendra pas sur Mériadec, mais on en parle un peu dans le livre, les gens qui se sont réappropriés certaines esplanades, ou etc., ou les parcs de la rive droite.
Les parcs de la rive droite, Mériadec, hein, l'esplanade Charles de Gaulle est enfin investie par les gens, hein, parce que très longtemps, on a eu peur d'une insécurité qui n'a jamais été avérée. Hein. Les statistiques de la police montrent bien qu'à Mériadec, on ne prend pas grand risque à se promener sur l'esplanade. Il y a quelques clochards de temps en temps, mais pas plus qu'ailleurs. Et donc, effectivement, les quais et la rive droite. Voilà. Et on a, à nouveau, on se promène dans Bordeaux, on traverse Bordeaux. Bordeaux n'est plus c'était très polarisé, Bordeaux. On allait à la Victoire, on allait à Gambetta, mais on n'allait pas de la Victoire à Gambetta, parce que c'était pas très sympa, parce qu'il n'y avait pas de trottoir, parce que, voilà, la rue, on a des photos de la rue Sainte-Catherine avant sa piétonnisation. C'était quand même assez dangereux de faire les vitrines, hein, à l'époque. En tout cas, c'était largement inconfortable. Donc, on voit bien les évolutions. Donc, aujourd'hui, on a envie de se promener dans cette ville. Et c'est vrai, on circule beaucoup plus à vélo et à pied qu'on ne le faisait. Alors que le tram, finalement, en termes de part modale, finalement, a augmenté simplement de 1%. Un investissement considérable, 1,3 milliard d'investissements pour faire que 1% de gens prennent les transports en commun, en plus, auparavant. Donc, vous voyez, c'est un investissement très onéreux pour le résultat, on peut dire.
En même temps, il y a combien de... Enfin, je ne sais plus, on donne le chiffre dans le livre, mais de voyageurs chaque jour, en valeur,
c'est quoi, 250 000, il y en a, mais je veux dire, ça n'a pas augmenté de façon considérable. Et c'est une déception. C'est une déception, quand même.
Alors, on va peut-être un petit peu conclure, juste pour pouvoir laisser la parole justement au public qui est là. Juste deux mots. Alors, voilà, c'était pour dire aussi que le livre, on y tenait. Voilà, c'est un balayage aussi dans les choses qui ne se sont pas faites, finalement. On a parlé, tu disais, heureusement, il y a des choses qui ne se sont pas faites en parlant de Mériadec. On voit aussi, donc, on n'a pas parlé du thème des ponts et des franchissements, donc, qui est longuement abordé dans l'ouvrage. Mais vous avez aussi plusieurs projets. parfois très beau, parfois complètement grandiloquent. Voilà, ça montre aussi un petit peu les, pas les choses auxquelles on a échappé, mais enfin le livre un petit peu fait un balayage aussi comme ça qui est assez, assez parfois assez cocasse et toujours intéressant puisqu'il y a parfois des grands architectes aussi qui sont intervenus. Voilà, donc l'intérêt quand même, je crois, on peut le terminer là-dessus, c'est que donc le livre, effectivement, c'est ce qu'on a essayé de démontrer là rapidement, montre une ville vivante, quoi, voilà, qui se reconstruit indéfiniment et sans cesse, au-delà de effectivement de l'image qu'on peut avoir de Bordeaux, qu'elle soit très positive ou voilà soutenue par son patrimoine, par son classement UNESCO, mais aussi par tout ce qui en fait la qualité de vie, y compris dans, parfois dans des formes un peu abruptes comme ça d'urbanisme, en tout cas. C'est, l'idée, c'était de décoder un maximum de choses, d'avoir du contenu, mais aussi un principe de lecture qui soit assez agréable, qui soit assez dynamique, qui soit assez varié, avec des illustrations qui ne sont pas là juste pour illustrer précisément, mais qui viennent aussi en contrepoint, en contre-regard, qui viennent commenter aussi ce que l'on voit et apporter un niveau de compréhension supplémentaire. Et donc, juste pour finir, je te laisse dire deux mots sur... l'ouvrage se termine un peu sur un texte donc, de Jean-Marc Hoffner qui justement est là pour donner un peu de prospective, comme on dit aujourd'hui, ou de perspective tout simplement. Voilà. Donc ce n'est pas 40 ans d'urbanisme simplement pour regarder dans le rétroviseur, comme on dit familièrement, mais plutôt pour essayer d'imaginer justement voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est pas de faire une autocritique, mais d'avoir un bilan assez nuancé finalement de son propre exercice, pardon. Et d'engager aussi des pistes, puisqu'il y a la piste de la métropole aujourd'hui, qui est celle de la communauté urbaine de Bordeaux et de l'agglomération en général, donc avec des ambitions au niveau national, voire plus, qui sont aujourd'hui bien engagées, même si on n'en est encore qu'à la réflexion. Et donc le livre se finit là-dessus aussi, voilà, pour essayer d'esquisser justement ces pistes de réflexion pour l'avenir. Peut-être tu pourrais en dire quelques mots. Et sur le coup, l'urbanisme de... aussi comme liant de tout cela et comme...
Oui, le mieux, c'est de vous renvoyer sur le texte de Jean-Marc Hoffner, hein, qui est remarquablement écrit, mais qui dit effectivement que la ville de demain ne se fera pas comme celle d'hier. Hein. Donc, notre démarche qui est de dire, bon, finalement, c'est le passé pour éclairer le présent et pour imaginer l'avenir, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il y a une continuité. La ville de demain, elle ne sera pas la même que celle d'hier, même que celle d'aujourd'hui, parce qu'elle doit être beaucoup plus économe, parce qu'il y a le développement durable. Et elle doit être plus économe, en espace, donc la densification, quelle que soit la forme, c'est peut-être pas avec plus 30%, j'en sais rien, mais la densification de la ville. Donc la meilleure utilisation de l'espace, meilleure économie dans les déplacements. Hein, il faut avoir une ville beaucoup plus économe dans l'utilisation de l'énergie. Hein, donc c'est un peu ça renvoie là-dessus. Ça renvoie sur la mutualisation de la ville, des équipements, sur la réversibilité des équipements. Un équipement peut évoluer dans le temps. On peut le faire changer d'affectation. Il faut le concevoir comme tel. Il s'inscrit pas obligatoirement dans la pérennité. Donc, pour être économe, hein, dans ce sens-là, on parlait un exemple très simple, c'est le stationnement. Je crois qu'aujourd'hui, il m'a semblé voir dans le Sud-Ouest un article sur les difficultés de stationnement au sud de Bordeaux. On pourrait dire que c'est pareil dans le centre, que c'est pareil dans l'ouest, à l'est et partout. C'est comment on peut mutualiser le stationnement, par exemple. Vous voyez bien qu'il y a des espaces en bitume qui ne servent à rien la nuit parce qu'ils sont privés ou privatisés. C'est des hypermarchés, supermarchés, c'est des administrations qui ont des parkings qui ne fonctionnent que la journée et qui ne fonctionnent pas la nuit, mais qui sont interdits d'accès pour les résidents. On pourrait très bien mutualiser ces espaces-là. Ça existe, hein, ça se fait, mais ça ne se fait pas assez. Et on est plus sur la propriété, malheureusement, que sur le partage. Et donc, on est sur une ville qui doit évoluer dans ce sens-là. Je donne cet exemple du stationnement, mais il y en a beaucoup d'autres. Et ça demande évidemment des partenariats, mais des vrais partenariats, et pas des gens qui resteraient sur leurs propres compétences ou prérogatives. Et ça, c'est un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Chacun a ses compétences et veut les garder. Mais bon, il faut faire changer un peu les mentalités pour que la ville soit beaucoup plus... à la fois généreuse, mais aussi accueillante et plus économe, parce que c'est quand même le mot important. Une ville plus économe, c'est, je crois, le maître mot. Et donc là, je vous renvoie au texte de Jean-Marc Hoffner, parce qu'il est tout à fait intéressant comme piste. Et c'est vrai qu'on a parlé du prétexte. Hein. Le prétexte, c'est effectivement les 40 ans de l'agence, c'est l'exposition, etc. Mais il y a aussi le contexte, effectivement, c'est la métropole. Et cette fameuse métropole, la réflexion qui est menée aujourd'hui, même si elle paraît, pour à certains, un peu un télo, derrière, il y a quand même des réalités et des choses plus concrètes qu'il s'agira de mettre en œuvre. Alors, pas moi, puisque je vais m'arrêter au 1er avril, mais d'autres, sûrement, continueront.
Voilà. Ah, merci une fois.